les podcasts de Radio Vatican.
Le salon de l'automobile se tient actuellement et jusqu'au 24 septembre 2017 à Francfort et dans les travées, un seul mot à la bouche, la voiture électrique. Volkswagen, BMW, Renault, ces derniers jours, les plus grands constructeurs ont rivalisé d'annonces spectaculaires sur leurs futures gammes électriques. Après le Dieselgate qui a touché Volkswagen et les soupçons de trafic des tests anti-pollution qui se multiplient, les constructeurs espèrent ainsi renouer avec la confiance des clients. Ils sont aussi poussés vers l'électrique par les autorités publiques. La Grande-Bretagne et la France veulent bannir les véhicules à moteur thermique d'ici 2040 et la Chine, premier marché automobile avec un quart de la production mondiale, est prête à leur emboîter le pas sans donner d'échéance. Bernard Julien, maître de conférence à l'Université de Bordeaux et spécialiste de l'industrie automobile, revient sur les raisons de cette décision du gouvernement chinois annoncée la semaine dernière. Il analyse également les implications du virage électrique pour les constructeurs, les pouvoirs publics et les consommateurs.
La Chine a tergiversé assez longtemps. On avait des politiques très favorables à l'électrique qui avaient émergé dès 2005-2006. Et puis, ils avaient un peu réfréné leurs ardeurs parce que personne ne semblait être à même de satisfaire l'exigence. Et puis, les choses ont changé il y a maintenant 2 ans, puisque on a vu apparaître dans les grandes villes chinoises une offre de véhicules électriques et maintenant souvent de constructeurs chinois qui a laissé penser qu'il était possible d'aller plus vite, plus loin et que ce serait une assez bonne opportunité de faire émerger des acteurs importants en Chine et donc d'aller au bout de ces objectifs qui étaient d'anciens objectifs des pouvoirs publics chinois. 1. Faire émerger une industrie véhicule électrique et 2. Faire en sorte que les acteurs et les technologies soient le plus chinois possible.
Est-ce que ça peut impacter la hiérarchie mondiale de l'automobile, des constructeurs automobiles, ou est-ce que ça peut conduire peut-être à une recomposition de nouvelles alliances ?
Moi, je dirais que le pari chinois ou le pari de Carlos Ghosn à la tête de Renault, Nissan, Mitsubishi est un peu le même. C'est l'idée que si les règles du jeu changent, si les technologies doivent changer, alors les hiérarchies ont des chances de changer aussi. Et par conséquent, la Chine qui peinait à devenir de manière domestique, si vous voulez, avec des acteurs domestiques, le champion mondial qui voulait être, espère bien y parvenir. Et puis de la même manière, un acteur comme Renault Nissan qui peinait à s'imposer comme le premier mondial se convainc qu'avec l'électrique, cette place de premier mondial lui est ouverte. Alors évidemment, il y a de vives incertitudes, mais il est vrai que l'avance prise à la fois par Renault et par Nissan dans ce champ du véhicule électrique, en tout cas du véhicule purement électrique, les laisse penser qu'ils ont fait, eux, des apprentissages qui restent à faire pour beaucoup de concurrents.
La fin de la vente de véhicules essence diesel pour le Royaume-Uni et la France, c'est un objectif fixé pour 2040. La Chine n'évoque aucune date. À quel horizon cette transition vous paraît-elle crédible et pourquoi ?
Je pense, si vous voulez, qu'il y a un effet de discours, tant chez les constructeurs comme chez les pouvoirs publics, et qu'il faudra, bien évidemment, envisager des transitions plus longues que celles qui sont aujourd'hui évoquées. De toute façon, le parc se renouvelle à une vitesse très très lente. Dans un pays comme la France ou l'Allemagne, c'est à peu près 5-6% du parc qui se renouvelle chaque année. Donc un parc complètement électrifié, c'est l'affaire de 50-60 ans. Alors après, reste à savoir à quelle vitesse on pourra passer d'immatriculations qui sont presque 100% permis qu'aujourd'hui à des immatriculations qui seront 100% électriques. Je dirais probablement jamais. L'idée ici, c'est qu'il y a une proportion très significative de l'offre de véhicules qui sera désormais électrique, de l'ordre peut-être de 5-10% à échéance 5 ans, et puis de 35-40% à échéance 15 ou 20.
Qu'est-ce qui va prendre du temps ? L'aménagement des territoires avec l'installation de bornes de recharge, la recherche technologique aussi ?
Oui, alors il y a des investissements très lourds, évidemment, puisque de la même manière que on avait dû structurer au moment de l'arrivée du véhicule thermique un réseau de distribution de pétrole qui était la condition du développement. Aujourd'hui, on a ces problématiques-là partout dans le monde pour la recharge des véhicules. Donc il va falloir inventer des choses qui soient moins coûteuses que ce qu'on connaît aujourd'hui. Il va falloir évidemment réformer aussi les systèmes de production énergétique. Il y a un aspect très systémique dans cette aventure-là. Et puis de la même manière, sur les turbines comme sur les batteries, on a aujourd'hui de très grands progrès à faire si on veut avoir des choses qui soient à la fois satisfaisantes du point de vue des fonctionnalités et puis pas trop chères. Aujourd'hui, on a quand même un vrai problème de coût d'accès à l'électrique. parce que les batteries restent extrêmement chères et puis qu'on n'a pas résolu les problèmes de fabrication des moteurs.
N'est-ce donc pas l'occasion de repenser, du moins en partie, le rapport entre les pouvoirs publics et les constructeurs privés ?
Derrière la question des infrastructures, il y a aussi la question des villes et de leur capacité à réguler tout ça, hein, du partage du pouvoir de réguler la circulation et la production de véhicules qui va se répartir entre les constructeurs, les citoyens, les États et les villes. En Chine, c'est Pékin et Shanghai qui ont été les drivers de ce truc-là parce que, comme Pékin est tout fait, ils ont autorisé les véhicules électriques à circuler tous les jours, ce qui n'était plus le cas pour les véhicules thermiques, et du coup, ça crée un marché. Donc, on voit très bien que l'économie de l'automobile est une économie où il y a de l'initiative privée, mais où tout ceci est conditionné par des règles du jeu qui ne peuvent être édictées que par les États pendant trop longtemps. Sans doute, les politiques s'en sont laissées compter par les constructeurs. Aujourd'hui, suite au Dieselgate en particulier, on a un balancement de l'autre côté. Il va falloir que tout ça se règle et qu'on trouve de nouveaux compromis.
On a parlé des constructeurs, des pouvoirs publics. Quelles conséquences également pour les premiers concernés, les clients ?
Il y a évidemment d'assez grandes incertitudes parce que pendant longtemps, on a dit que le véhicule électrique devrait être davantage partagé parce que sa plage d'utilisation est un peu plus limitée. Donc, il est difficile de faire des véhicules électriques polyvalents comme on avait l'habitude d'avoir des véhicules polyvalents, ce qui aurait poussé à un changement assez profond. Et puis, on a aujourd'hui des Tesla qui sont toutes électriques et qui ressemblent comme des sœurs aux véhicules du passé. Par conséquent, il est aujourd'hui difficile de savoir si le parc électrique sera un parc de véhicules comme avant, qui sera simplement électrifié, ou bien si on va avoir des formes d'accès à l'automobile qui vont être amenées à se modifier en même temps. L'essentiel du chemin reste à faire, dirais-je, sur le plan technologique, mais aussi sur le plan de la refonte des pratiques automobiles.
Concernant la question écologique, est-ce que cette montée en puissance des véhicules électriques va être forcément une bonne nouvelle pour l'environnement ?
Non, évidemment, il y a au moins trois problèmes qui ne sont pas résolus du point de vue écologique avec le véhicule électrique. Il y a d'une part la disponibilité des matières premières. Il faut évidemment se répartir cette rareté pour aujourd'hui ou bien inventer de nouvelles technologies. Il y a évidemment un problème de production d'électricité avec une production électrique à la chinoise, c'est-à-dire essentiellement faite à partir de charbon. Eh bien, le bilan écologique de l'électrification n'est pas du tout favorable pour l'instant. Et puis enfin, on a évidemment tous les problèmes de pollution qui sont liés à l'encombrement des véhicules, qui sont liés aux bouchons et à ces questions de congestion urbaine. Et ça, évidemment, il suffit pas que le parc soit électrifié pour qu'il cesse d'être encombrant et de poser des problèmes d'asphyxie des villes.
Justement, concernant l'environnement, une question par rapport à une autre actualité, celle du gasoil, où il y a une défiance des consommateurs suite au Dieselgate. Même si c'était un scandale lié à l'environnement, paradoxalement, c'est pas forcément une très bonne nouvelle aussi pour l'écologie.
Il y a évidemment des effets très paradoxaux, puisque un des problèmes clés auxquels on avait voulu s'attaquer toutes ces dernières années, c'était le problème des émissions de gaz à effet de serre. Le diesel fournissait, parce qu'il est relativement peu émetteur de CO2, de bonnes réponses de ce point de vue-là. Si on prohibe le diesel, on peut se retrouver effectivement avec des problèmes de gaz à effet de serre plus importants que ceux qu'on escomptait avoir.
Un entretien réalisé par Samuel Blény.